Donc, ce dernier thème de l'année, qui a été consacré au couple et à la famille, et aujourd'hui, j'espère, je ne me suis pas trompé de thème, qu'aujourd'hui, c'est transmettre la foi en famille, c'est ça, hein, voilà, oui, c'est bon. C'est bon, je ne me suis pas trompé de thème, alléluia. Donc, nous allons parler de ça, de la transmission de la foi, parce que qui dit famille dit forcément transmission. Mais vous le savez bien, c'est pas simplement la transmission d'un patrimoine ou la transmission de dettes éventuellement, mais c'est surtout la transmission de à la fois de valeurs et à la fois de la foi. De façon très objective, transmettre la foi en famille, transmettre la foi aux enfants, c'est les baptiser. Le baptême, c'est la manière de transmettre la foi. Donc là aussi, il faut revenir à quelque chose d'objectif aussi dans notre manière de vivre et de penser la foi. La foi est une grâce. Et cette grâce, on l'obtient par les sacrements, de façon particulière. On l'obtient en amont. C'est vrai que l'Esprit Saint, c'est une grâce qui vient du Saint-Esprit. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas baptisées, qui ont la grâce de la foi en Jésus, qui croient en Jésus. Sinon, il n'y aurait jamais de catéchumène. Hein, forcément, donc cette grâce-là, mais cette grâce-là, on sait qu'elle est au rendez-vous à l'intérieur des sacrements, particulièrement du baptême, qui donne la grâce de la foi en Jésus, qui incorpore à l'Église. Voilà tout ce que donne la c'est pas, je vais pas développer sur le baptême, mais c'est important aussi d'objectiver. Voilà, comment est-ce que je transmets la foi? C'est par grâce. Maintenant, c'est sûr que le fait d'avoir un terrain favorable, c'est quelque chose de très important. Un peu comme la semence, vous vous souvenez, avec la parabole du semeur, le semeur est sorti pour semer, eh bien voilà, il est sorti pour semer, et la semence est tombée dans les mauvaises graines, dans les mauvaises terres, dans les ronces, etc., etc. C'est sûr que la manière dont cette foi, cette grâce est accueillie dans la famille va se développer de façon tout à fait différente, selon que on donne aux enfants un climat de foi, la possibilité de faire des expériences, bon, on y reviendra, qui vont leur permettre de s'approprier cette propre foi. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on transmet d'abord la foi en Jésus. C'est la foi en une personne. C'est pas, alors, c'est vrai que cette foi-là, elle implique un certain nombre de valeurs. Je dis ça parce que dans les préparations au mariage que je peux faire, comme vous le savez, je suis très impliqué dans les préparations au mariage, et arrive la question, le Christ au cœur de votre couple. Comment est-ce que vous avez... Eh bien, les fiancés, pourtant pratiquants, catholiques, de famille la plupart du temps, issus de familles catholiques pratiquantes elles-mêmes, ont bien du mal à définir... Ben vous dites, ça, c'est comment dire, c'est un code moral, c'est ça nous a donné des valeurs, ça nous a donné des repères. Jésus est un maître. Voilà, on voit un certain nombre de choses, mais qui, à mon avis, ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'est la foi chrétienne. Des valeurs, j'allais dire, toutes les religions transmettent un certain nombre de valeurs. Puis même les personnes qui ne croient en aucun Dieu transmettent des valeurs, que ce soit à leurs enfants, parce que, bien sûr, ce soit le respect de l'autre, que ce soit la solidarité, que ce soit le pardon, que, bon, voilà, un certain nombre de valeurs, je veux dire, aujourd'hui, c'est difficile d'être contre les valeurs chrétiennes. Quelque part, elles sont tellement diffuses dans notre société, d'une certaine manière, que, voilà, on s'en rend plus compte. Mais aller dans une société qui n'est pas chrétienne, et là, vous vous rendrez compte qu'on est dans une société façonnée par l'Évangile, même si les gens pratiquent plus. Parce qu'il y a, bon, des tas de choses liées au respect, l'importance de la personne, les droits de la personne, etc., etc. Tout ça, ça vient de l'Évangile. Faut aussi s'en rendre compte. Et du coup, je pense que c'est important de dire, nous transmettre la foi, c'est pas seulement transmettre des valeurs. C'est transmettre l'attachement à une personne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien. C'est pas transmettre un modèle simplement. La foi, c'est, transmettre un modèle. Je veux dire, toutes les familles transmettent des modèles. De toute façon, on peut pas faire autrement. De même que toute communauté religieuse, quand un jeune arrive, bah, transmet un modèle de vie religieuse. Ça, très certainement, ça c'est... Mais vous voyez, la foi, c'est vraiment cette... D'abord, la définir, c'est l'adhésion de l'intelligence à un Dieu qui se révèle. Dieu se révèle, et je dis oui, c'est vrai. Des tas de religions ont voulu créer un pont entre l'homme et Dieu, hein, et puis, ça c'est le principe des religions, toutes les religions c'est ça. De façon différente, que ce soit par l'animisme ou par les religions qu'on pourrait appeler premières, comme en Amérique latine ou en Afrique, des religions, voilà, toutes les grandes les religions asiatiques, etc., ont voulu créer quelque chose parce qu'il y a une aspiration dans l'homme à un lien avec la transcendance. C'est dans le cœur humain, parce que nous savons pourquoi il y a cette aspiration, parce qu'on est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est pas, ça va, c'est pas trop rapide, c'est bon Non, mais vous me dites, hein, vous m'interrompez si... Moins vite, voilà. Voilà, donc du coup, non mais ça, alors, vous en êtes arrêté où?
Aspiration.
Donc il y a dans le cœur de chaque personne humaine, bon, mais ça, c'est des choses que vous savez, normalement, au bout de l'année, je vais faire une petite contrôle, là. Ça doit être su, archi-su. Donc, il y a une aspiration dans le cœur humain à aller vers le Seigneur, à aller vers une divinité, on va dire ça comme ça. C'est quoi la différence avec Jésus? C'est que autant il y a des religions qui ont construit des ponts, il y en a un qui a dit, non, le pont, c'est moi. C'est pas du tout pareil. On ne joue pas du tout dans la même cour. Le christianisme ne joue pas du tout dans la même cour que toutes les autres traditions religieuses, pour respectables qu'elles soient. Parce que toutes les traditions religieuses, justement, veulent aller vers Dieu. J'ai été à une exposition, c'était l'année dernière, au Petit Palais à Paris, qui s'appelle « Dieu au pluriel, mode d'emploi ». Et donc, ça présentait de façon très objective, très factuelle, les différentes religions du monde, etc. Et c'était très intéressant de voir que dans la première, il y avait une salle, une sorte d'antichambre pour l'exposition. Et donc la personne qui est le commissaire, je pense qu'on dit comme ça, de l'exposition, eh ben, avait dit, ben voilà, il avait créé une, on rentrait dans une salle où il y avait trois objets. Il y avait une statue Dogon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les Dogons, c'est une tribu africaine, une statue Dogon de la fertilité, donc représentait une femme qui avait les mains tirées comme ça vers le ciel, tendues vers le ciel. Il y avait une stèle cananéenne, aussi représentant des mains, c'était autour des mains, cette salle-là. Et il y avait la chasse d'un reliquaire, il y avait un reliquaire qui vient de Chartres, du trésor de Chartres, où on voyait des mains, mais des mains qui descendaient. Et je trouvais ça, donc ces trois statues, les statues, j'allais dire, païennes, des mains qui levaient, qui représentent au fond cette humanité qui tend vers Dieu, hein, et puis là, ces mains qui descendaient et qui étaient sur le reliquaire, et moi, quand j'ai vu ça, moi, ça m'est apparu tout clair. Vraiment, le christianisme, c'est cette main qui vient de Dieu et qui se tend vers l'homme, et qui répond à toutes les mains tendues de l'homme vers Dieu. Moi, en tout cas, moi, ça m'est apparu assez clairement. Je veux dire, c'est toutes les religions tendent les mains vers Dieu, vers une divinité, quelle qu'elle soit, vers une philosophie, tend vers quelque chose de transcendant. Dans le christianisme, eh ben, c'est Dieu qui tend la main vers l'homme. Et cette main tendue s'appelle Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Oui, ça a à voir, mais c'est la réponse à toutes les autres mains tendues. C'est la grâce, c'est une grâce qui nous vient d'en haut. C'est une grâce. C'est une grâce. Jésus, c'est la grâce incréée. Voilà. C'est une grâce qui nous vient Déchire les cieux et descend. Dans le temps de l'Avent, on a ce chant-là. Déchire les cieux et descend. Hein. C'est cette descente de Dieu vers notre humanité. Alors que toutes les religions, traditions spirituelles, tout ce que vous voulez, philosophie, je mets tout ça un peu dans le même sac, ont voulu s'élever vers la divinité en mettant des noms différents. Je dis ça donc parce que justement, l'attachement à la personne du Christ, c'est autre chose que la transmission de valeurs. Et donc la foi en Jésus, c'est cet attachement à la personne de Jésus. Pas seulement comme un maître, il y a eu des maîtres. Il y en a plein. Confucius, c'est un maître. Gandhi, d'une certaine manière, est un maître. Le Bouddha est un maître. Mais Jésus n'est pas simplement un maître. Hein ? Un maître, pas un maître qui enseigne, pas un maître à mesurer, hein, mais un maître qui enseigne, un enseignant n'est pas... Non, il nous révèle l'amour du Père. Il nous dit qui est Dieu parce qu'il vient de Dieu. Hein, je vous renvoie à Saint Jean, le prologue de Saint Jean. Il est Dieu, né de Dieu, hein, et puis notre credo. Je crois que c'est important que nous-mêmes, nous puissions nous poser la question, justement, est-ce qu'on est dans la transmission simplement d'un modèle de valeur ou la transmission qui est plus délicate ou est-ce qu'on éveille dans le cœur de l'enfant ou dans les jeunes vraiment cet attachement à l'évangile et à la personne de Jésus qui est forcément une grâce. Ce qu'on pourra faire nous simplement c'est disposer, j'allais dire, là, le cœur de l'enfant, du jeune ou de qui vous voulez. Mais regardons notre chemin à nous d'abord. Comment ça s'est passé? Il y a eu des moments, moi je sais que là, il y a eu une forme de reconversion à l'âge de 24 ans. Pourtant, j'avais coché toutes les cases, j'avais reçu tous les stempels. Mais, Stempel, je pense, il faudra expliquer. Mais ensuite, mais voilà, c'était rien passé. Et puis, il y a eu une retraite qui m'a claque, c'est vrai. C'est ça. La foi, c'est dire, c'est vrai. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est vrai. Il est né de la Vierge Marie, c'est vrai. C'est l'adhésion de l'intelligence à un Dieu qui se révèle. Et ça, ce sera toute l'année prochaine où on travaillera. Mais c'est capital. Hein. Est-ce que vous voyez bien la différence? Parce que c'est complètement... Alors, ça veut dire des valeurs, etc. Mais il n'y a pas que les chrétiens transmettent des valeurs, heureusement. Je veux dire, que ce soit des valeurs dans le sens de l'interdit, par exemple, ben voilà, que ce soit des valeurs dans les choses, au contraire, à encourager. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire... avec vous et de méditer avec vous, justement parmi les premières lignes de la lettre apostolique du pape François, la joie de l'Évangile, hein, que vous avez sur vos chaises normalement, la joie de l'Évangile. Pour comprendre un peu cette grâce aussi, de dire voilà que. Un peu comment procéder, je sais pas, mais parce que c'est ça, la joie de l'Évangile, c'est la transmission de l'Évangile aussi. Quelles sont les conséquences de l'Évangile et de l'attachement à Jésus dans notre société? Alors, il parle pas spécifiquement de la famille, mais il va pour ceux qui ont les textes, le texte complet, il va justement dans tous les aspects de la société. La question est l'économie, la question de l'accueil des personnes en précarité, etc., etc. Alors, je lis tout simplement avec vous et je médite avec vous. Une église en sortie. C'est bon, vous avez le texte. Une église en sortie. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l'appel à partir vers une nouvelle terre. Moïse écouta l'appel de Dieu, « Va, je t'envoie », et fit sortir le peuple vers la terre promise. À Jérémie, il dit, « Vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Aujourd'hui, dans cette allée de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout chrétien, toute communauté discernera quel est le chemin que toute famille, on peut rajouter, hein, la famille est une communauté aussi, hein, que le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort, avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Alors là c'est un thème qui est très fréquent dans les paroles du pape François, sortir de l'entre-soi. Et c'est vrai, j'allais dire, alors comment l'appliquer à la dimension de l'éducation de la foi chez les enfants ou chez les jeunes? C'est d'abord vous-même dire votre propre foi. Pourquoi est-ce que vous croyez en Jésus? Parce que vous êtes, né en France? Parce que vous êtes d'une famille catholique? Parce que voilà, et donc grosso modo, j'étais sur les rails, et puis donc est-ce que c'est simplement culturel? Vous voyez, si vous dites c'est simplement culturel à vos enfants, parce que vos enfants vous proposeront. Vous poseront la question, mais ils seront à l'école peut-être avec des gens d'autres religions. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une autre religion? Ou pourquoi est-ce qu'on n'est pas sans religion? Ou pourquoi faut-il avoir une religion? Ma question, et ce que je vois chez les chers parents que vous êtes, c'est que vous avez bien de la misère à mettre des mots sur la foi. C'est pas que vous n'avez pas la foi, mais votre attachement à la personne de Jésus. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes catholique et pas autre chose, et pourquoi vous pratiquez il faut aussi sortir quelque part, sortir de soi-même. Je suis très marqué, encore une fois, j'en parle souvent, mais dans les préparations au mariage, j'invite les fiancés à prier ensemble. Mais je l'assure, j'ai de la misère. Je parle de gens catholiques, pratiquants. Je parle pas de gens, qui seraient aux antipodes, aux périphéries, comme dit le Saint-Père. On peut pas parler de périphérie vraiment là, mais alors que sous d'autres points ils sont, j'allais dire, là ils disent oh non, c'est très pudique, alors que sous d'autres points ils sont beaucoup moins pudiques. Mais bon, ça c'est une autre question. Passons. Mais c'est vrai que quelque part, un couple ou quand on partage sa foi. C'est vrai que surtout qu'on n'a pas l'habitude de le faire en France. Surtout, le fait d'être en France, ça n'aide pas de ce point de vue-là, parce qu'il y a une telle coupure entre la société civile et la vie spirituelle qui n'existe pas dans d'autres pays, hein, même dans d'autres pays européens, hein, sans aller chercher dans d'autres continents. Mais le fait de cette coupure-là fait que parler de la foi, c'est presque... À quelqu'un, c'est presque indécent, c'est presque lui demander combien est-ce que vous gagnez. Non, ça se fait pas, ça. Et du coup, on se dit, comme c'est important que vous-même, le pape invite à sortir, mais à aussi sortir de soi-même, sortir de cette fausse pudeur quelque part, sortir de savoir mettre des mots. Pourquoi est-ce que je suis attaché à l'Évangile? Pourquoi est-ce que... la pratique de la foi m'aide, non seulement, mais pourquoi je crois en Jésus et non pas en un autre Dieu ou en aucun Dieu? Je crois que c'est pour vous en tout cas, et pour tous, il y a aussi un acte de foi à dire votre foi et à passer peut-être au-delà d'un quant à soi, d'un respect humain, vous voyez, d'une certaine pudeur, c'est vrai, mais quand on est dans le domaine des enfants et de la transmission de la foi, ce qui les marque beaucoup, c'est quand leurs parents ont dit leur foi. Et non pas simplement ont posé les gestes de la foi. C'est pas pareil de poser les gestes de la foi, comme la pratique dominicale, par exemple, que de dire sa foi et de partager en famille sur ce qui fait le contenu de notre foi et notre attachement à Jésus. C'est déjà bien le fait d'avoir les pratiques, les gestes de la foi, les rites de la foi. Mais vous voyez bien qu'arrivé à un certain âge, pour qu'on va à la messe, etc. C'est toujours un peu la même histoire depuis, c'est pas nouveau. Mais si vous arrivez vous-même à dire le pourquoi de ces gestes, eh bien, je vous assure, si on enraciner dans la prière, parce que pour moi, dans la prière, c'est très fort la vie de prière, la prière en famille ou la prière en couple, etc. Alors, il faut respecter le rythme de chacun, je suis d'accord, c'est compliqué. Mais en même temps, dans la prière, il y a vraiment, on ne se sent pas jugé dans la prière, on s'adresse ensemble vers le Seigneur comme des pauvres, on s'en remet. Je veux dire, de voir ses parents prier, de voir particulièrement son père prier, et je pense que ça, prier seul, de voir ses parents prier sans volonté d'ostentation, hein, bien sûr, mais c'est très fort. Pour un jeune, c'est très fort. Hein, le pape Jean-Paul II disait « Aujourd'hui, on a plus besoin de témoins que de maîtres. Hein. » Et du coup, je pense que de ce point de vue-là, dans la prière, quelque part, ça se transmet un peu que par... la foi, bon, il y a la grâce du baptême qui donne, dans le cœur de l'enfant, nous le croyons, la capacité de croire, je veux dire, la foi. Mais ensuite, une chose, c'est le thé, une chose, c'est l'infusion, et que le thé infuse la totalité du bol dans lequel il est trempé. Si la foi est là, mais qu'elle ne rayonne pas dans le cœur du jeune ou de l'enfant, ou dans notre vie, c'est pareil. Voilà, mais il y a toujours des étapes, c'est sûr, mais il y a quelque chose, une fécondité qui ne sera pas au rendez-vous, quoi, ça c'est sûr. Et donc je trouve ça intéressant de dire que le pape nous dit, il faut sortir de... Alors là, il va vers les périphéries, mais je veux dire, ce fait de sortir, c'est vrai que la foi, c'est une dépossession de soi, toujours. C'est... voilà, on va vers Dieu. Alors, là aussi, il faut être mesuré, il ne faut pas non plus tout ramener à la religion, sans cesse, et casser les oreilles. Là aussi, vous avez aussi la grâce, les pas t'as dit, d'être intelligent, donc du coup, la grâce aussi du discernement, de dire, quand est-ce que vous avez une parole à dire, quand est-ce que... Mais vous voyez, je donnais cet exemple que je donne bien souvent aux jeunes couples aussi, et moi jeune couple aussi, le fait de se bénir avant de s'endormir, de se faire un signe de croix entre époux. Oui, mais ben. Oui, non, ben ça c'est bien, moi vous dites tout haut, voilà. Mais je trouve. Pas besoin de grands discours, pas besoin d'être une demi-heure dans des méditations. Faire l'irruption, vous voyez, quelque part, moi je crois, à la force des petites choses, l'irruption du sacré dans nos vies. L'irruption, vraiment c'est, bénir, on reçoit pas bénédiction tous les quatre matins, je veux dire, c'est fort comme geste. Vous voyez, quelque part... Le fait qu'il y ait une telle coupure, en tout cas en France, entre la vie de foi et la société civile, fait que chaque geste qui montre la foi a une puissance considérable. Moi, je l'interprète comme ça. Chaque geste qui, comme le fait de bénir. Alors, bénir les enfants, là, je pense que vous l'avez déjà fait, vous le faites quand ils sont petits, etc. Mais, par exemple, le fait de dire, quelqu'un vous confie quelque chose, etc., au lieu de dire, je vais penser à vous, je vais prier pour vous. Pas pareil. Mais vous dites rien de plus. Oui. Oui. Faire le signe de croix avant de s'endormir. C'est-à-dire qu'on bénit, on fait sur le front de l'enfant, ou en général de l'enfant, mais on peut faire le front. On demande la bénédiction du Seigneur.
Oui, mais vous avez dit que c'est une
ablution. Ah oui, alors attendez. C'est ça, c'est le sacré qui. Une irruption du sacré, c'est-à-dire que une irruption, oui, c'est une entrée du sacré, c'est une manifestation du sacré, le fait de bénir, c'est un geste sacré, dans la vie quotidienne. Et dans la vie, je veux dire, irruption, c'est ça, c'est une manifestation, c'est voilà, le sacré rentre dans la vie quotidienne en France. Où justement, il faut surtout pas que le sacré, voilà, si on peut le ramener uniquement chez soi et le ramener uniquement dans l'intimité familiale, mais surtout qu'il dérange pas. Hein, du coup, les signes ostentatoires, tout ce que c'est, etc. On voit cette. Mais dans le couple ou dans la famille, le fait de la bénédiction, de recevoir. La bénédiction, je sais pas quoi, pour un voyage, recevoir, mais des petits gestes, pas de grandir, ça a une force considérable. Comme vous dites, au lieu de dire je vais penser, je vais prier pour vous, il y a un mot qui change, mais là on est dans un autre univers. On ne joue pas dans la même cour. Donc il y a ce que dit le Saint-Père là, c'est il faut sortir de soi-même pour transmettre la foi. Il y a quelque chose à se déposséder aussi de soi, du côté voilà de son quant à soi, de son respect humain. Au fond, c'est rentrer dans une confiance. Transmettre la foi, c'est rentrer dans une confiance en Dieu, que le Seigneur. Dans ce que vous avez donné, continuera d'agir, et il continuera d'agir bien au-delà de ce que vous avez donné. Donc, la foi, c'est un décentrement de soi-même. Pour aller vers le Seigneur. Quitte ton pays et la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Hein, c'est Abraham. C'est toujours ce que dit le Saint-Père. L'Église est en sortie. Voilà. Elle faut quitter. On n'est pas dans l'installation. C'est pour ça que la tente, c'était le style dans l'Ancienne Alliance, la tente de la rencontre. Voilà, où il y avait, parce que justement, on n'a pas de demeure stable, on va pas s'installer, mais du coup, une tente, forcément, c'est fragile, ça peut être bousculé par les vents, ça peut être en porte démontée, ça peut être remonté, et tabernacle, ça veut dire tente. Hein, tabernacula, c'est en latin, ça veut dire tente. Et donc, du coup, la tente, c'est-à-dire dire voilà, on n'a pas à s'installer. Et donc, du coup, quand on applique ça à la famille. Quelque part, il faut peut-être revoir. Bon, on a des rites, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller dans une rencontre plus profonde avec une expression plus profonde, se désinstaller un peu de nos manières de faire pour aller plus profond, pour en donner le sens. Vous comprenez, je comprends le sens du message du Saint-Père dans ce sens-là. Voilà, allez, faut un peu bouger, quoi. Il faut un peu, et bouger, ça peut dire sa foi. C'est pas forcément déménager ou rentrer dans des choses extraordinaires. Bouger, ça peut être simplement dire extérioriser un peu plus sa foi dans la famille. Là, on est dans la famille. Mais je vois que les parents n'osent pas visiter ma cousine ces temps-ci, et je voyais son fils, qui est un garçon tout à fait sympathique, vraiment brillant, etc. Et je lui dis, alors tu te donnes quoi comme moyen pour grandir dans ta vie spirituelle ? Non, mais je sais pas, c'est rien contre la foi et les mœurs, je veux dire, c'est pas une question. Non, mais c'est un garçon très brillant, il étudie, voilà, à Londres, le truc, summum, voilà, bon, ok, bon, très bien, ok, au plan intellectuel, on voit que tu mets en place des trucs, c'est bien. Maintenant, ta vie spirituelle, tu te donnes quoi comme moyen? Mais personne ne m'avait posé la question. Mais ça, c'est aux parents de poser la question. À un moment donné, c'est lui à donner la réponse. Il a 19 ans, 20 ans, bah, tu es en charge de ta vie spirituelle. Comme tu es en charge, à un moment donné, de même, on n'est pas derrière toi à faire les devoirs à 20 ans. Ça ne va pas être possible, ça. Gros moment de solitude. Mais vous auriez. Bon, il ne faut pas parler. Mais bon, mais du coup, mais oser, mais de façon interrogative. Plus l'enfant. Du coup, je crois que ça. Ensuite, ça fera son chemin. Et ben, je prétends pas que là, il y ait eu voilà, une réponse définitive donnée, mais ça fera son chemin. De lui faire de faire des propositions aux enfants quand ils sont petits, bon voilà, ils suivent vos propositions, mais bon, je parle aux plus grands, plus ça grandit, bah plus ils veulent, mais tu sais, est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu as vu cette annonce, est-ce que voilà, de mettre laisser traîner sur la table de façon complètement fortuite une invitation à un camp, à un pèlerinage de jeunes, d'étudiants, je sais pas quoi, bon, est-ce que tu étais au courant? C'est tout. Ça, à un moment donné, là aussi, il faut faire confiance. Ce que vous, je pense surtout des grands jeunes ou des adolescents, ben voilà, on peut plus forcer à participer à des camps, à des bon, mais de leur poser la question, ok, tu vas pas, mais dis-moi comment ta vie spirituelle, tu la prends en charge. Et si tu es pas croyant, dis-moi pourquoi tu n'es pas croyant. Mais il faut que tu me le dises, il faut que tu me l'expliques clairement. Mon avis, ça. Ça va calmer le jeu. Mais en disant ça, j'ai pas l'impression. Mais vous voyez, c'est parfois des choses toutes simples. Encore une fois, il ne faut pas être docteur en théologie pour dire ça. Mais d'interroger, de soi-même sortir de son quant à soi, peut-être de sa pudeur, de sa sensibilité, et d'interroger, de l'interroger. Le jeune. Quand il est en âge de balle. Maintenant, c'est toi qui es responsable, mon grand, de ta vie de spi. Hein, nous, on te paye les études jusqu'à ce que tu puisses en faire, mais tu es responsable aussi de tes études. On ne va pas être derrière toi. À un moment donné, ça, c'est pas possible. Donc voilà, mais de dire que c'est un ensemble, la vie spirituelle, c'est. On ne peut pas mettre de côté la vie spirituelle. Mais rien qu'une parole comme ça. Ça peut retenir. On ne sait pas du tout. Ensuite, on porte dans la prière. Vraiment, je trouve l'évangile du semeur est un évangile tout à fait adapté pour ça. Parce que on ne sait pas du tout ce que ça va. Mais à nous, le Seigneur ne serait pas sorti pour semer, mais on ne serait pas croyant aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient donné de la peine pour nous quand on était enfant, eh bien, on ne serait pas croyant aujourd'hui. Mais il y a eu, à un moment donné, un déclic, chacun a son histoire sacrée. Chacun a son histoire sainte. Certains, ça peut être justement étant jeune, d'autres, ça peut être au moment du mariage, d'autres, ça peut être la naissance du premier enfant, d'autres, ça peut être, je sais pas, un deuil, quelque chose qui a fait que vraiment on est passé d'une foi reçue à une foi de conviction, une foi de tradition à une foi de conviction. Et je trouve chez certains jeunes, en tout cas, très beau de voir, ben voilà, il y a une vraie foi de conviction chez beaucoup. Hein, chez beaucoup, disons, chez certains, restons modestes, mais. Tout cas, ceux qui l'ont, ils l'ont. Ensuite. La joie de numéro 21, la joie de l'évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire. Les 70 disciples en font l'expérience, eux qui reviennent de la mission pleins de joie. Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans l'Esprit Saint et loue le Père parce que sa révélation rejoint les pauvres et les plus petits. Les premiers qui se convertissent la ressentent. rempli d'admiration, en écoutant la prédication des apôtres, chacun dans sa propre langue, à la Pentecôte. Cette joie est un signe que l'Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours la dynamique de l'exode, du don, du fait de sortir de soi, de marcher, de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Le Seigneur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y presse aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Quand la semence a été semée en un lieu, il ne s'attarde pas là pour expliquer davantage ou faire d'autres signes. Au contraire, l'Esprit le conduit à partir vers d'autres villages. Ben, bon, on a vu la question de l'exode, la question de la joie. Le fait de transmettre la foi, c'est faire que la foi soit signe de joie. On parlera après de la fête. Mais comment est-ce qu'on... un saint triste et un triste saint, je veux dire, on évangélise par la joie. Et la joie que nous donne l'appartenance au Seigneur. Si on nous voit toujours le visage contrarié, tendu, crispé, etc., etc., mais son Dieu, alors, il lui donne de la joie, son Dieu, quelqu'un qui... ou il lui donne pas de la joie. Et je pense que de ce côté-là, il y a une véritable question à se poser, de dire, de faire de nos célébrations, dans le judaïsme, quelque chose qui est très beau, c'est que les fêtes religieuses sont aussi associées à des rituels, on danse, alors du coup on se réunit en communauté, on danse les danses d'Israël, etc., des chants, on prend des... Voilà, c'est traditionnel, mais je trouve de mettre en place aussi, d'associer dans nos familles les fêtes religieuses, non seulement à des bons repas, ces jours de fête. Eh bien, de façon mais tangentielle, diffuse, la foi elle passe, parce que c'est une joie de croire, joie de vivre, joie de croire. Voilà, c'est une joie de croire. Et donc du coup, le Saint-Père nous dit, le Seigneur, en fait, il a évangélisé aussi par la joie. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. Numéro 22. L'Évangile parle d'une semence qui, une fois semée, croît d'elle-même, y compris quand l'agriculteur dort. Vous connaissez ce chapitre, ce passage de l'Évangile. La semence, qu'il soit, il y a la référence, c'est en Marc 4, 26, 29. Qu'il dort ou qu'il soit éveillé, eh bien, le royaume de Dieu, comme une semence, grandit. Là, je crois aussi, vous avez affaire à un acte de foi dans le Seigneur, que dans le cœur de vos enfants, de vos jeunes, de votre famille, que vous soyez éveillé ou que, eh bien, le royaume de Dieu grandit. Parce que c'est pas une histoire humaine. C'est pas une histoire de marketing. C'est pas une histoire d'efficacité. C'est une grâce. Parce que le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc ça grandit. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole, qui est efficace à sa manière et sous des formes très diverses, telles qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. Voilà, à un moment donné, voilà, tout ce que vous avez pu faire pour enfants, quand vos enfants étaient encore petits, etc., je suis sûr que vous l'avez fait, vous savez déjà. Mais plus ils grandissent, plus ils vous échappent. Et je vais dire, tant mieux. C'est l'objectif de l'éducation, c'est qu'ils partent. C'est pas qu'ils restent des tanguis à 40 ans encore chez papa, maman. Parce que sinon on se dit, il y a peut-être un petit problème. Mais en même temps, c'est pareil, c'est, vous savez semer des choses, j'en suis sûr, dans le cœur de vos enfants. Maintenant, ça, quelque part, ça ne vous appartient plus. Vous pouvez accompagner, vous pouvez poser des questions, vous pouvez porter dans la prière. Vous pouvez faire, mais plus ils vont grandir, moins ça vous appartient et plus ça leur appartient. Il faut leur dire maintenant, ça t'appartient. Et du coup, la parole de Dieu, elle peut être semée dans un cœur de jeunes, par exemple, et produire des effets qu'on n'avait absolument pas soupçonnés. Pour prendre le cas de ma famille, nous, c'était la messe le dimanche, mais c'était point barre. Il n'y avait pas de bénédiction, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de retraite en famille, il n'y avait pas tout ce que je vois. Alors, chez beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment au taquet de Jésus, quoi. Vous êtes à fond, quoi. Nous, c'était pas comme ça. Et même moyennant quoi, il y a une religieuse et un prêtre qui sont sortis, quoi. Donc, alors que peut-être d'autres, ça formera des couples chrétiens, etc. Mais il n'y a pas. Et maman me dit souvent, mais heureusement qu'on n'a pas fait plus, parce que sinon, c'est toute la famille qui serait passée là. Donc, c'est là où ça nous échappe quelque part. Un curé de paroisse qui me disait ben, je vais beaucoup travailler avec les enfants de cœur pour que les approcher de l'autel, donc les garçons pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils fréquentent un prêtre, etc. Il y a eu deux vocations, mais aucune dans mon groupe d'enfants de cœur. Ça nous dépasse, et je pense que c'est ça qui n'est pas facile dans la foi. Dans la foi, c'est pas psychologique, c'est pas de l'ordre de cause à effet. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est de l'ordre de la grâce. Et il y a des personnes qui s'éloigneront pendant un temps, qui reviendront après, c'est de l'ordre de la grâce. Et c'est là où il y a une forme de désappropriation quelque part intérieure. Ce que vous avez semé est semé. Ça, vous en faites pas, je pense que les enfants ont très bien compris que pour vous, c'était important. Maintenant, c'est dans la prière. On verra cet après-midi, dans l'accompagnement.